Je crois que ça m'amuse aussi, hein, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps pour expliquer le contenu du micro ouvert. Ça m'amuse dans le sens que ben, je dois essayer de dire le moins de mots possible et le plus précis pour que vous compreniez ce que vous allez entendre. Donc il y a une première partie, là c'est la deuxième. Je vous invite évidemment à écouter la première partie pour bien comprendre tout le contenu, quoi. Là, on va entendre Gwenola Ricordo, qui est sociologue, féministe et militante pour l'abolition du système pénal. Donc, elle était de passage à Bruxelles. Et donc là, elle donne comme une genre de conférence, quoi. Donc, on lui pose des questions et puis il y a un public qui est là. Voilà. Et le public pourra aussi poser ses questions à la toute fin, comme on a des fois l'habitude d'entendre. Voilà, ça, c'est une chose. Et moi, j'en ai profité pour mettre David Dufresne, qui a créé un site qui s'appelle Au Poste, un site internet qui s'appelle Au Poste, qui est un média, quoi, un média complètement alternatif. Et là, je vous passais un 15-20 minutes de Bardella contesté à Vesoul et Moissac, un geste politique frondeur pour Arié Halimi. Bon, vous comprenez rien, mais en gros, un jeune ado de 17 ans balance de la farine sur Bardella. Et c'est Arié Halimi qui est son avocat. Donc on va entendre ça dans une deuxième partie.
Micro.
C'est une évolution de l'abolitionnisme qui est de plus en plus un mouvement dans lequel les victimes ont une place importante, parce que de plus en plus de victimes en viennent à l'abolitionnisme par l'expérience qu'elles ont fait du système pénal et de la violence du système pénal et de la façon dont le système pénal n'a pas répondu à leurs besoins. Alors évidemment hein, que les victimes peuvent trouver des réponses à leurs besoins dans d'autres formes de justice, mais c'est évidemment pas toujours suffisant. Alors peut-être que ce qu'il y avait de sous-entendu dans la question, c'était quels sont les besoins des victimes, peut-être. Alors c'est vrai que pour répondre à cette question, moi je m'appuie beaucoup sur une autrice et militante abolitionniste qui est Ruth Morris, qui disait toutes les victimes, et quand elle disait toutes les victimes, elle parlait à la fois des préjudices et des torts individuels, mais aussi les victimes de préjudices structurels, donc les victimes du capitalisme, du racisme, du patriarcat. Elle disait toutes les victimes ont les mêmes besoins, elles ont un besoin de vérité. Et vous pouvez à chaque fois réfléchir à si le système pénal répond à ce besoin-là, hein, le besoin de vérité. Et les victimes ont besoin de savoir pourquoi, comment, etc. Elles ont besoin de formes de réparation, hein, qu'on répare le préjudice subi. Elles ont besoin de sécurité. Et là aussi, hein, on peut se demander de quelle façon le système pénal répond à ce besoin de sécurité. Alors évidemment, lorsqu'on enferme quelqu'un, on peut répondre à un besoin immédiat de sécurité. Si on pense aux violences conjugales, il y a une sorte d'évidence que si vous mettez l'auteur de violences conjugales en prison, vous répondez au besoin de sécurité d'une victime. En même temps, quand on connaît les violences conjugales, on sait aussi que le sentiment de sécurité, il n'est pas du simple fait d'enfermer l'auteur de la violence. Hein. Le fait d'être victime, et en particulier victime dans son intimité, ça crée un sentiment, on pourrait dire, d'insécurité hein, plus général. Et c'est pas de savoir la personne juste enfermée qui va amener forcément à ce répit ou à ce... à une forme de sérénité. Alors, on a parlé de besoin de vérité, le besoin de réparation. Voilà, pour donner du sens, c'est souvent aussi un processus collectif. Hein, si on a vécu des choses graves dans sa vie, et pas forcément liées au système pénal, mais tous les événements douloureux de la vie, lorsqu'on en fait l'expérience, on sait qu'il faut du temps pour guérir, pour faire son deuil, peu importe le vocabulaire qu'on utilise. Et souvent, ce processus, il se tisse avec d'autres personnes, d'autres expériences. Et c'est un processus qui a sa propre temporalité, qui est rarement la temporalité aussi du système pénal. Parfois, le procès peut être une étape dans ce temps de la guérison ou du deuil, mais c'est souvent un temps qui n'est pas suffisant à lui-même. Et donc, lorsque on se décentre de la question de la seule punition et qu'on en vient plus à penser aux besoins des victimes, ça fait évidemment penser la façon dont on pourrait organiser la société de façon très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ça permet aussi de revenir à ta toute première question, qui était celle de l'horizon, parce que il y a à la fois tout ce que j'avais évoqué, hein, la question de l'enfermement, la question de la punition, la question du système pénal, mais c'est aussi la façon dont on répond aux préjudices. Les abolitionnistes ne sont pas des utopistes, ils pensent au contraire, hein, que le système pénal est l'utopie. Elle est l'utopie parce qu'elle nous mène en bateau perpétuellement en nous disant, hein, qu'on va pouvoir réformer et puis qu'un jour viendra où on aura une bonne prison et une bonne police. Et tout ça est un mirage. Et donc, une réponse réaliste, c'est de partir justement des besoins des victimes et de la façon dont on va répondre à leurs besoins. Parce que, désolé si c'est une breaking news, mais il n'y a pas de vie sociale sans préjudice. Hein, une société avec des êtres parfaits, une vie harmonieuse est impossible. Désolée si je brise les rêves, mais ça, on est condamné dans la vie en société à ce qu'il y ait malheureusement ces moments-là. Et donc, comme on est condamné à ça, essayons d'avoir des façons qui soient moins cruelles et criminelles de les régler.
Je ne m'arrête pas parce que je crois qu'on a fini.
Tu voulais conclure.
Bien. On vous a présenté ce qui semble être une utopie. Je vous propose de prendre 2 minutes pour qu'on puisse boire quelque chose. Si tu as soif,
non.
Ou pas? Oui.
Avant la pause, est-ce qu'on pourrait demander à Gwenola de se présenter?
Salut, je pense que c'est pas
là. On peut demander à Gwenola de se présenter si elle veut.
Alors, j'étais à la gare du Midi. Comment me présenter? Oui, je l'ai évoqué un petit peu en filigrane. Jusqu'il y a quelques mois, je vivais aux États-Unis. J'étais professeure associée de justice criminelle dans une université, donc la California State University à Chico. Poste dont j'ai démissionné cet été dans le contexte du Trumpisme et des menaces qu'il y a à la fois sur le monde de la recherche, les personnes migrantes, les mouvements radicaux. Vous avez sans doute entendu que Donald Trump a signé un executive order qui considère Antifa comme une organisation terroriste. Alors évidemment, ça peut faire ricaner parce que Antifa n'est pas une organisation. Mais en tout cas, ça dit bien le moment où on en est. Vous avez peut-être entendu parler de la façon dont certains universitaires sont très sérieusement harcelés, au point que, d'ailleurs, l'un a fui en Espagne. L'auteur de l'histoire de l'antifascisme, Marc Bach. Donc voilà, j'ai démissionné. J'étais dans une situation beaucoup... Pas extrême de ce point de vue-là. J'étais aux États-Unis depuis la première administration Trump et auparavant j'étais enseignante-chercheuse à l'université de Lille. J'ai beaucoup travaillé en tant que sociologue slash criminologue. Je dis slash criminologue parce qu'en France la criminologie n'existe pas comme dans votre pays. Donc j'ai d'abord été sociologue et j'ai d'abord travaillé sur la question de l'effet de l'incarcération sur les proches des personnes détenues, les questions de sexualité et de genre en prison. Je suis abolitionniste depuis le début des années 2000. Donc mon travail de chercheuse a été aussi très façonné par ces engagements-là. C'est une des raisons qui m'a amenée à travailler sur la question des proches de personnes détenues, pour sortir la question de la prison de seulement les personnes détenues, pour dire que voilà, la peine de prison, elle affecte bien au-delà des personnes qui sont incarcérées. Et donc j'ai aussi travaillé sur la question de la critique de la prison et de la police, ce qui m'a amené à écrire plusieurs livres, de diriger certains. Et je m'intéresse beaucoup ces dernières années aux questions de patrimonialisation, donc du fait que certaines prisons sont transformées en musées, mais beaucoup dans le contexte nord-américain, où vous avez beaucoup de prisons des prisons qui deviennent, dans le meilleur des cas, des hôtels, parfois des lieux où on passe des soirées à chercher des fantômes. Ça vous paraît très exotique? Non.
Voilà.
Voilà, ce qui m'intéresse. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait oublié de présenter Gwenola. C'était prévu dans le programme et puis en fait, ça nous semblait tellement une évidence qu'on a oublié ce passage quand même obligatoire. Donc merci beaucoup de l'avoir remis, même si c'était dans un ordre inversé. Tant qu'on parle des ouvrages, on peut aussi mentionner, avant les questions-réponses, qu'on a toute une série d'ouvrages de Gwenola Ricordo qui sont en vente sur la petite table derrière vous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ils se lisent extrêmement facilement, toujours très très bien écrit, extrêmement accessible. Donc vraiment, c'est des conseils de tout l'IP.
Merci.
Et puis sur les questions de patrimonialisation, on saute sur le sujet, mais plusieurs personnes ici sont membres aussi d'une association qui s'appelle 9 mètres carrés et qui vise à réhabiliter le site de l'ancienne prison de Forêt, qui est ici à 300 mètres, pour en faire un musée pédagogique sur l'enfermement, peut-être les enfermements. Et donc voilà, c'est un projet qui est en cours. Il y a déjà quelques petites visites qui s'organisent. On a les clés depuis, 9 mètres carrés a les clés depuis quelques mois. Et petit à petit, ça prend forme. Donc n'hésitez pas à aller soutenir ce projet-là aussi. Et il est temps maintenant de
dire aussi que le Génépi est là. Vous êtes là, Sarah? Ah, vous êtes là. Et que j'ai des pieds là avec des cartes de vœux afin que vous puissiez adresser vos vœux aux personnes qui se trouvent en détention, que c'est une démarche, ben, que Gwenola l'a dit à un moment donné, hyper importante de pouvoir garder le lien, de créer le lien. Ben, je les remercie pour ça, elles vont peut-être un peu se présenter aussi, ce qu'elles font, mais vous en parlerez avec elles, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Donc on va vous passer le micro.
Ben on peut prévenir que c'est enregistré pour la radio, enfin voilà, que les gens comprennent.
Voilà. Donc il y a un enregistrement radio et que les choses seront expliquées à ce niveau-là. Ça va ? Je vous laisse 30 secondes pour poser, pour remettre votre esprit en mode clarification ou question. Je préfère la clarification, mais bon.
En fait,
on a un seul micro.
On
a un seul micro, donc on va vous demander de prendre la parole en parlant bien fort, et donc comme ça va éviter les allers-retours dans tous les sens. Voilà.
Les gens comprennent pourquoi on enregistre pour la radio, qu'ils pourront réécouter, parce que sinon ça fait un peu
comme si je venais avec mon micro. Que les gens comprennent pourquoi je prends du son pour la radio, en fait, vous pourrez réécouter après. C'est anonyme, on ne vous voit pas. Si vous voulez dire vos prénoms, enfin voilà, c'est vraiment...
Moi, ce qui m'intéresse, c'est entendre la pensée, quoi, ce que vous dites. Basta. Et si vous ne voulez pas, je ne prends pas. Voilà.
Merci.
Il n'y a pas de micro ?
Merci beaucoup pour la présentation et pour la conférence en général. Parce que ma question est notamment du fait que je suis assez nouveau sur le sujet, je ne m'y connais pas du tout beaucoup. Et alors, une question qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup parlé, c'est effectivement à quoi ressemble un monde abolitionniste. Et vous avez bien expliqué, finalement, mais évidemment remis en perspective et lancé des pistes sur à quoi ça pourrait ressembler. Et je me posais simplement la question d'un sujet particulier, d'une mission particulière de la, qui est occupée actuellement par les policiers, les juges d'instruction, les procureurs, qui est celui d'enquête. Parce que je pense que, et vous avez donné l'exemple du vélo, en disant, mais finalement, si c'est mon fils, j'aurais tendance à être plus constructif que si c'est le voisin. Parfois, c'est ni le fils ni le voisin, c'est aussi des gens qu'on ne connaît pas. Et plus largement, je pense notamment à des crimes autrement plus graves, comme des attentats. Et je pense qu'en France, notamment, dernièrement, la plupart des attentats qui sont évités sont des attentats d'extrême droite. Et ça, ce sont quand même des missions qui sont occupées par la police, les procureurs, les juges d'instruction. Et du coup, j'aurais simplement voulu savoir si, quelles sont les pistes qui sont mentionnées dans la littérature abolitionniste pour cette mission spécifique. Merci.
Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question et qui sont plus ou moins auxquels il est plus ou moins facile de répondre parce que d'abord il y a la question de l'élucidation. C'est aussi un terme que vous employez en Belgique, hein, de trouver le coupable ou la coupable. Parfois, c'est des femmes. Évidemment que tout à l'heure, on parlait du besoin de vérité des victimes. Si on imagine un monde sans police, est-ce que ça veut dire qu'on imagine un monde sans enquête policière, ou en tout cas ce qu'on entend aujourd'hui par enquête policière? Est-ce que ça veut dire que l'on renonce à l'élucidation de certains faits, parce que si encore on part de l'idée qu'il y aura toujours des faits, et parfois même malheureusement des faits graves qui seront commis, est-ce que du coup on voudra renoncer à l'élucidation et se dire que finalement on peut essayer de faire sans élucidation et donc sans répondre aux besoins de vérité de certaines victimes? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faudra que certaines personnes se professionnalisent sur l'élucidation, parce qu'on ne va pas tous pouvoir devenir il y a des niveaux d'expertise qui sont requis pour l'élucidation de certains faits. Et du coup, voilà, il peut y avoir ces débats-là. J'ai déjà eu ces conversations et moi, je fais partie des gens qui pensent que peut-être qu'on peut renoncer à l'élucidation de certains crimes, en fait. Et que je ne suis pas sûre que toute la technologie qui est utilisée pour résoudre des crimes, et je pense par exemple tous les développements autour de l'ADN, par exemple, je ne pense pas que ce soit quelque chose de bénéfique, forcément, pour les victimes. Et que malheureusement, aujourd'hui, on dit aux victimes... il peut y avoir un imaginaire pour les victimes qu'il faut forcément réussir à résoudre le crime, mais parce que il y a rien d'autre qui leur est proposé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il va y avoir cette attente extrêmement forte autour de l'enquête policière. Et je pense qu'on pourrait faire autrement, en fait, qu'on pourrait se dire que ça ne vaut pas forcément la peine qu'on soit tous finalement fichés par l'ADN, parce qu'il faut bien se dire que c'est vers ça qu'on tend aujourd'hui, hein, là, avec l'extension de l'utilisation des fichiers ADN. Mais est-ce que ça veut dire que collectivement, on est prêt à accepter ça? Alors moi, je pense que ce serait un bon choix de société de se dire que ce n'est pas parce que l'ADN, on sait le faire, qu'on est obligé de l'utiliser. Il n'y a pas une réponse ferme là-dessus. En tout cas, il n'y a pas une doxa abolitionniste. Parce qu'une autre façon de répondre à votre question, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment la peine de discuter de ça alors qu'on n'en est pas là? Bon, et là aussi, ça se pose... il y a des gens qui pensent qu'il faut être absolument dans la préfiguration de tout. Moi, je pense qu'on voit plus clair en avançant. Les abolitionnistes des années 70 se posaient pas le... ne voyaient pas certaines choses, étaient aveugles à certaines problématiques auxquelles aujourd'hui on a des meilleures approches. Voilà, j'ai une certaine confiance dans les générations futures abolitionnistes pour pouvoir répondre à ces questions-là, si à un moment donné, ça devient des questions pratiques auxquelles il faudra répondre. Puis il y a la question du terrorisme. Alors, il y a des terrorismes. Est-ce que... c'est aussi une conversation qu'on commençait à avoir un petit peu là, tout à l'heure. Hein, c'est est-ce que... Enfin, comment on s'attaque à ce genre de phénomène. Alors, évidemment, quand... et je pense qu'en Belgique, il y a cette même sensibilité autour des attentats qu'il y a en France. Voilà, c'est des événements dramatiques qui ont touché quand même énormément de gens. Et il y a cette mémoire et cette douleur encore très vive. Mais évidemment que ces attentats, ces attaques terroristes, elles s'inscrivent aussi dans des relations internationales dans lesquelles, en tout cas, la France n'est pas innocente. La France et toutes les pays occidentaux ont une forte responsabilité dans l'histoire coloniale, dans l'histoire toutes les formes d'impérialisme qu'il y a aujourd'hui. Et sans doute que la réponse la plus raisonnable qu'il y aurait à donner au terrorisme, ce serait d'arrêter de le nourrir en allant semer la misère aux quatre coins du monde. Alors, évidemment que ça peut paraître une réponse irréaliste aujourd'hui, mais en tout cas, ce serait ma réponse pour le moment. Et du coup... C'est aussi pour ça que c'est d'autant plus compliqué de répondre à la question « ce serait quoi une société abolitionniste ?» Parce que je pense que vous le comprenez en m'écoutant, ma perspective abolitionniste, elle est aussi profondément révolutionnaire, qu'elle est forcément internationaliste, et qu'elle passe par le renversement des rapports de domination qui nourrissent aujourd'hui les activités terroristes, alors que ce soit d'ailleurs... le terrorisme islamiste ou d'extrême droite.
Une autre question, ou en tout cas, peut-être, c'est effectivement très difficile pour un abolitionniste de savoir de quel monde sera fait demain. On peut le rêver, on peut se dire, tiens, ça ressemblera à des communautés. Dans les communautés, ben, j'aurai plus besoin de flics parce que finalement... Ben, les choses qui se passent se sauront, mais aussi on aura mis des choses en place pour que, ben, vu les structures, vu que les gens sont ensemble, prennent soin les uns des autres, ben, il pourrait ne plus y avoir autant de crimes ou autant de faits qui soient commis.
Ou ce type de crime.
Ou ce type de crime, et donc que les choses seraient beaucoup plus pacifiées aussi. Donc, on peut pas, c'est très difficile de réfléchir. Un autre, enfin l'abolitionnisme là dans cette place-ci, quoi. Ouais.
Tu voulais parler ?
Oui, je veux bien essayer. Ouais. Moi, c'était, ça m'intéressait d'avoir un peu plus de développement, si vous voulez bien, sur plus fort. C'est bien ? Ah ok, ça m'intéressait d'en savoir un peu plus sur le lien entre l'abolitionnisme et un des premiers enjeux que vous disiez de celui-ci, qui était la législation de tous les produits essentiels. Légalisation, ouais, c'est pas ça que j'ai dit, pardon. voilà, et moi ça m'intéresse parce que je suis professeure d'adolescents qui choisissent des thèmes et qui choisissent souvent la criminalité et qui doivent un peu dire ce qui... Déjà, je trouve ça édifiant qu'ils choisissent souvent la criminalité. Et ce qui revient souvent, c'est des questions sur les mafias. Comment elles fonctionnent, comment elles s'organisent, comment est-ce qu'en fait des si grosses organisations puissent exister. Et cette année, on a des élèves, et c'est plus rare en fait, qui ont posé des questions sur les prisons. Et voilà, c'est un peu là-dedans... De où je pose la question.
Ok, merci. Peut-être que le défaut des abolitionnistes, c'est de se dérober un petit peu aux questions, des fois. Parce que la façon dont, en tout cas, moi, je peux vous répondre, c'est que, évidemment, que les mafias, le narcotrafic, toutes ces organisations, prospèrent parce que certains produits sont criminalisés, sont prohibés, et pour moi, la meilleure façon de répondre à l'existence de ces organisations criminelles, c'est de légaliser ces produits-là. C'est et donc de les empêcher de prospérer à partir de l'interdiction de ces produits. Et pour moi, ça va avec le fait de permettre à la jeunesse qui est aujourd'hui criminalisée lorsqu'elle rentre dans des activités criminelles de pouvoir finalement vivre de la vente de ces produits ou de la culture de ces produits. Donc je pense que c'est aussi important de pas simplement légaliser, mais aussi de permettre la naissance d'un secteur économique porté par les personnes qui sont aujourd'hui criminalisées parce qu'elles sont aujourd'hui vendeurs de drogue ou qu'elles transportent ces produits. Parce que si on légalise, mais que les personnes qui profitent de la légalisation, c'est en gros des gens qui ont aujourd'hui de l'argent et qui sont capables d'investir dans monter des coffee shops, etc. Chose qu'on a vu beaucoup aux États-Unis, hein, quand certains États ont légalisé, ça n'a pas profité en gros aux Africains-Américains, aux Latinos, etc., qui sont les personnes qui sont aujourd'hui essentiellement criminalisées pour la vente de ces produits. Donc, d'un point de vue abolitionniste, évidemment qu'on prône des formes de décriminalisation, de légalisation. Désolée, peut-être que je fatigue un peu et du coup, je ne me souviens plus exactement votre question.
Non, ce n'était pas une question, c'était juste de développer. Mais c'est déjà très bien, merci.
Et on peut aussi porter l'attention sur s'il y a de la vente, s'il y a un marché aussi faramineux, s'il y a des gens qui consomment. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de consommer dans notre société telle que celle-là? Il y a une boucle qui est assez évidente entre le fait qu'il y a un besoin qui est créé par un système, qui est le système capitaliste, et qui ramène de nouveau à l'existence de groupes qui, finalement, offrent à des demandeurs le produit dont ils ont besoin. Et tout ça fonctionne ensemble.
Dire que l'Observatoire des prisons va dans les écoles. Donc si vous avez,
déjà
si vous avez besoin,
voilà. L'OIP va dans les écoles.
Ok. Pour intéresser, voilà.
Merci. J'allais juste rebondir sur le fait que tu disais, on a un peu cette tendance à se dérober des questions. Moi, je pense que c'est pas uniquement l'idée de il y a une question qui m'ennuie, je vais aller poser le problème ailleurs. C'est aussi un des fondements, je pense, de l'abolitionnisme, dis-moi si je me trompe, qui est aussi de poser que finalement la seule vraie alternative à la prison, c'est la prévention. Et c'est pas juste se dire, qu'est-ce qu'on doit mettre comme alternative? Si on n'a pas la prison, qu'est-ce qu'on doit avoir à la place? Mais c'est aussi de se dire comment construire une société où, en fait, on aurait tellement de dispositifs mis en place pour éviter que des personnes tombent dans des situations de criminalité. Et donc, finalement, comment se passer de la prison plutôt que d'imaginer qu'on supprime la prison et qu'on construit juste une autre institution ou un autre dispositif à la place. C'est vraiment l'approche en amont.
Bonsoir, merci d'abord. Moi, ce sera très bref. En fait, j'avais envie d'entendre votre avis sur le lien avec l'extrême droite, qui était dans le titre. Ça, je serais intéressée d'entendre. Voilà. Merci, et merci pour tout le reste.
C'est vrai que c'était le titre original de la discussion qu'on devait avoir.
Du coup, moi, c'est en lien avec ça aussi. Parce que... On parle beaucoup d'enfermement, on parle des prisons, mais on voit en tout cas en Belgique et dans plein d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis aussi, l'enfermement de plus en plus de personnes aussi en matière d'immigration. Et on sent que le dispositif au niveau migratoire se renforce très fort avec la prison et qu'il y a vraiment une interconnexion entre les deux qui est de plus en plus évidente. Et du coup, je trouve que le lien avec l'extrême droite est d'autant plus évident et je trouve ça intéressant de pouvoir parler des deux aussi.
Et c'est vrai que dans la discussion qu'on avait eue dans le autour de la construction de cette soirée. Il y avait la question de est-ce que l'abolitionnisme pourrait être soluble dans l'extrême droite ou est-ce que l'abolitionnisme pourrait être récupéré. Il y avait différentes formulations. Et ça, je trouve que c'est intéressant à poser parce que effectivement, il peut y avoir dans les courants d'extrême droite aussi une critique radicale de l'État, une critique radicale du système pénal. Et dans le paysage politique états-unien, on voit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, mais Trump s'intéresse assez peu à la question des prisons, par exemple, et même du système pénal. Il y a beaucoup de choses qui l'intéressent beaucoup. Mais par exemple, quand vous regardez son programme politique, c'est quelque chose dont il parle très, très rarement, parce que en fait, même dans les think tanks qui sont proches de Trump et de l'extrême droite états-unienne, ça les intéresse assez peu. Et puis, ils ont des formes d'ambiguïté parce que, à la fois, évidemment, tout ce qui est le corps policier est une base très, très trumpiste, hein, vous imaginez bien. Mais en même temps, ils ne veulent pas trop dépenser d'argent pour tous ces gens-là. Bon, ça, c'est, donc voilà, ils ont ce rapport un petit peu paradoxal. Et du coup, ils aimeraient bien un peu se débarrasser de ça. Mais en même temps, c'est une partie de leur électorat. Et en fait, quand vous regardez la politique pénale qu'il y a eu sous Trump, et ça peut être un peu contre-intuitif, il y a eu plutôt une baisse du nombre des prisonniers, même une forte baisse du nombre des prisonniers, parce que c'est sous Trump qu'a été passée une loi importante qui a permis la libération de beaucoup de prisonniers longue peine, des prisonniers fédéraux. Et donc, il peut y avoir, dans l'extrême droite, tout un intérêt pour toutes les approches réductionnistes de l'État, et donc réductionniste aussi des forces de police, de la prison, etc. Mais évidemment, les deux projets ne sont pas équivalents. Et là où, du coup, tu avais raison de soulever ça, c'est qu'on voit essentiellement deux choses aux États-Unis. C'est si Trump et le trumpisme se désintéressent pas mal des prisons. Par contre, ils sont quand même très très proches des intérêts des compagnies privées qui, elles, font beaucoup plus d'argent sur l'enfermement des migrantes que sur l'enfermement des personnes qui sont criminalisées. En clair, maintenant, parce que souvent on a l'image des États-Unis, c'est les prisons privées, etc. Oui, c'est les prisons privées, mais par exemple, il y a beaucoup plus en proportion de personnes. Dans les prisons françaises, la proportion de personnes qui sont dans des prisons à gestion privée est beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. Voilà. En France, c'est un tiers des prisonniers qui sont dans des prisons à gestion privée. Aux États-Unis, c'est que 10%. Et bon, voilà. Et souvent, il y a souvent l'image un peu inverse. Et donc, aux États-Unis, certes, il y a des compagnies privées qui ont des intérêts financiers extrêmement forts sur l'enfermement et la criminalisation des personnes. Mais c'est surtout, en fait, sur l'enfermement des migrants. Et ça, on l'a vu, ils ont financé très grassement la campagne de Trump. Et aujourd'hui, tous les développements que vous avez avec l'installation de nouveaux centres de rétention, vous avez peut-être entendu ce qu'ils ont fait en Floride, ce qu'ils ont appelé l'Alcatraz de Floride. Tout ça, c'est des intérêts privés. Et donc, il y a cet enjeu-là, en fait, de l'enfermement des étrangers. Et voilà, et il faut aussi voir qu'aux États-Unis, la question de l'approbation et de toutes les formes de peine alternative est beaucoup plus avancée, à mon sens, qu'en France. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la Belgique, mais le nombre de personnes qui sont sous des formes de supervision, avec quand même un énorme secteur et des formes vraiment très avancées de sous-traitance, avec des sociétés qui prospèrent là-dedans, que ce soit les visites domiciliaires. J'ai découvert très tardivement dans mon séjour américain qu'il y avait des sociétés privées qui étaient embauchées avec des personnes qui ont une formation qui est enfin, voilà, très, très éloignées de la sphère du travail social, avec des gens, par exemple, qui vont superviser des personnes pour aller à leurs rendez-vous médicaux, etc. Enfin, c'est vraiment extrêmement avancé, avec des programmes qui coûtent extrêmement cher. Et donc, tout ça, c'est un secteur qui prospère actuellement. Et ce qui contribue à me faire dire que la prison ne doit vraiment pas être notre principale cible, mais bien en fait toutes ces formes de pénalité.
On arrive tout doucement à la fin. Donc est-ce qu'il y a encore des questions? Quelqu'un qui... C'est clair pour tout le monde. Vous avez soif. Est-ce qu'on a déjà préparé le... Yo, t'es où? Est-ce qu'on peut préparer le train, si tu veux bien?
Mais oui.
Alors
du coup, un peu désolé parce que vous venez de...
Oui, pardon. On t'entend bien.
Désolé parce que vous venez de terminer en disant il ne faut pas se consacrer qu'à la prison, mais du coup je vais réembrayer sur la prison. Mais c'était un peu dans la continuité de ce que vous disiez. C'était, j'ai l'impression qu'un mouvement qui est important aux États-Unis, en tout cas de la perception qu'on en a d'ici, mais j'ai l'impression que la question se pose de plus en plus en Europe, c'est celui de la délocalisation des prisons à l'étranger. Et du coup, est-ce que ce n'est pas aussi un modèle un peu, enfin un futur annoncé où les prisons, effectivement, dans les pays occidentaux, disparaissent quasiment, mais parce qu'elles sont sous-traitées, en fait, dans des pays du sud global ou dans des États qui sont dominés, quoi.
Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que c'est aussi effrayant de voir cette transformation à l'œuvre. Je ne sais pas si vous avez noté que la Cour suprême s'était opposée à l'envoi de certaines personnes dans des prisons du Salvador, c'est ça? Les juristes qui ont suivi ça, oui, c'était bien le Salvador. Ce qui quand même dit là où on en est aux États-Unis, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même un exécutif qui va à l'encontre des décisions de la branche judiciaire. Même quand on n'a pas fait beaucoup de droit, on sait que ça craint, en fait, quand on en est là. Un président qui ne respecte pas ce que dit la Cour suprême. Et Trump a dit que, y compris les citoyens états-uniens, pouvaient être susceptibles d'être envoyés dans les prisons du Salvador. Et aussi à Guantanamo. Voilà. Effectivement, on peut très bien imaginer que ce modèle-là, il se généralise. Mais ça ira... Enfin, cette perspective-là va vraiment dans le sens que... Enfin, voilà, que j'imagine, en fait, aussi d'un monde occidental, on pourrait se permettre de vivre sans prison parce que, finalement, ça heurterait notre sensibilité, qu'on pourrait déléguer ça. Et ça m'amène à une comparaison avec la question de la police. De la même façon, je pense qu'il faut, quand on parle d'abolition de la police, il faut pas simplement penser les personnes en uniforme ou la voiture de police. On voit, et je pense que ça va vous parler si vous pensez à des quartiers gentrifiés ou à des quartiers riches, on peut vivre sans police, en fait. On peut vivre sans police s'il y a d'autres formes de police, en fait. Hein, alors, en anglais, s'il y a la facilité, il y a le terme de policing, qui est différent de police, policing. Donc, c'est le fait de faire la police. Donc, vous voyez bien, dans ces quartiers riches, gentrifiés, il y a le prix des loyers, il y a l'occupation de l'espace, qui fait que certaines populations vont être exclues. Et puis, il y a aussi toutes les autres formes de surveillance qui peuvent être mises en œuvre. Et donc, le fait de vivre sans prison et de vivre sans police, ça pourrait être très bien le luxe d'une certaine élite, hein, qui pourrait se permettre, hein, de ne pas voir ça, hein, de ne pas voir d'uniforme, de ne pas voir de cellules, mais par contre, Il y aurait des dispositifs de surveillance et de contrôle qui seraient loin ou qui seraient différents ou qui seraient soft, plus accessible, enfin, acceptable socialement. Et c'est vraiment ça à quoi il faut faire attention en tant qu'abolitionniste, c'est que notre cible peut se dérober, se transformer, mais qu'il faut, et donc il faut être clair sur... c'est pas la seule institution, mais c'est bien sa fonction en fait qu'on vise.
Et ça se termine comme ça donc pour Gwenola Ricordo. On entend les applaudissements que j'ai coupés pour que vous puissiez écouter la suite là maintenant dans ce micro ouvert. Donc un adolescent de 17 ans a enfariné Jordan Bardella à Vesoul. Ça s'appelle Au Poste. Je sais pas si vous connaissiez. C'est un média alternatif sur Internet avec David Dufresne. Vous tapez Au Poste, David Dufresne, et vous trouverez ce reportage que vous allez entendre. Mais moi, j'ai dû le couper. Donc, vous pouvez écouter la suite sur le site.
Alors, on va faire un test, on va voir si ça fonctionne. Arié, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Arié?
Oui, bonjour, monsieur David Dufresne, je vous entends parfaitement, oui.
Ah, c'est fantastique. Bonjour, Arié. Excuse-moi de ces petits soucis techniques au déboté. Attends, tac, 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 je vais te mettre en grand. Oui, tu te recoiffes, tout va bien. Voilà, voilà. Bonjour, maître Arié Halimi. Merci de nous recevoir chez vous. Il est très tôt pour vous, hein. Il est très tôt, il est 8h27. Vous n'avez pas l'habitude. Arié, tu es donc, maintenant on peut le dire, tu es donc l'avocat du jeune adolescent qui a enfariné Jordan Bardella à Vesoul il y a quelques jours.
Alors du jeune adolescent et de ses parents également, effectivement, qui m'ont désigné dans le cadre de cette affaire rocambolesque, on peut parler de rocambolesque. Effectivement, ce jeune homme a été placé en garde à vue pendant un peu moins de 24 heures, mais il avait 17 ans, il est mineur. Et puis, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas poursuivi. Le ministère public n'envisage pas de le poursuivre, simplement de le convoquer devant un délégué du procureur. Le risque étant, d'un point de vue judiciaire, un simple stage citoyen, mais c'est déjà beaucoup. Ça implique que le ministère public considère qu'il a pu commettre des violences contre le sieur Jordan Bardella et peut-être des dommages et intérêts, parce que figurez-vous que les membres du Rassemblement national, Jordan Bardella en tête, ont déposé plainte contre ce mineur et vont demander de l'argent, donc des espèces sonnantes et trébuchantes, parce qu'ils considèrent que cette farine leur a fait beaucoup de mal.
Alors voilà, il y a deux députés du Rassemblement national, Émeric Salmon, Antoine Villedieu, qui sont députés de Haute-Saône. Haute-Saône, c'est Vesoul, quoi. Et le RN qui porte plainte. Quels sont les risques pour ceux qui voudraient enfariner, pour ceux qui voudraient casser des œufs, pour ceux qui voudraient ajouter du lait, par exemple? Quels sont les risques exacts aux yeux de la loi?
Alors, il faut vraiment être très clair sur la loi, ce qu'elle implique. La loi, ce sont des qualifications pénales. Ça veut dire qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut et qu'on peut qualifier n'importe quel type d'acte d'infraction pénale si on souhaite le faire, si le ministère public souhaite le faire. Je vous prends un exemple. Le simple fait de crier sur quelqu'un, et si ce cri a un retentissement sur cette personne, peut être constitutif de violence volontaire et donc être poursuivi devant un tribunal correctionnel. Donc évidemment que le fait de lancer des choses, y compris de la farine, y compris des œufs sur une personne, peut être constitutif de violence. Voilà. Après, évidemment, il faut qu'il y ait eu un retentissement psychologique et qu'il y ait eu une volonté de commettre des violences volontaires. Voilà, moi si ce jeune homme devait être poursuivi devant un tribunal pour enfants ou un juge pour enfants, parce qu'il est mineur, la question de la violence serait infiniment discutable s'agissant de la farine. Hein. Pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, c'est un geste symbolique. Alors, c'est un geste qui peut causer, évidemment, un trouble sur le costume de Jordan Bardella, puisqu'il va falloir s'essuyer. Hein. En revanche, est-ce que ça va avoir ça va créer un préjudice particulier sur sa personne ? C'est à discuter, hein, véritablement. La deuxième chose, c'est qu'on a quelque chose qui nous protège en France, d'ailleurs dans toute l'Union européenne, tous les pays qui relèvent de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la possibilité d'invoquer la liberté d'expression. Il y a beaucoup d'infractions en France qui peuvent ne pas être poursuivies et condamnées. Je vous donne un exemple. J'ai défendu des personnes qui sont rentrées sur le tarmac d'un aéroport, des personnes qui sont rentrées ou qui ont bloqué des trains, des personnes qui ont commis des actes de désobéissance civile, des personnes, je vous donne l'exemple d'une jurisprudence très, très, très importante, c'est la jurisprudence des décrocheurs de portraits. Vous savez, ce sont ces militants qui ont été décrochés les portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies et qui les ont, alors en tout cas selon le parquet, volés. Hein, et donc, beaucoup, beaucoup de militants ont été poursuivis pour vol. Et effectivement, ça peut être qualifié de vol puisque c'est une soustraction frauduleuse des portraits d'Emmanuel Macron. Eh bien, figurez-vous que la Cour de cassation a considéré que ces décrochages ne devaient pas être ni poursuivis ni condamnés sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté d'expression, le débat d'intérêt général, c'est qu'il y a en fait une forme d'exonération de responsabilité lorsque l'on fait des actes qui ont une symbolique politique et qu'il y a une disproportion en réalité entre l'acte de poursuite pénale et l'acte poursuivi. Et donc maintenant, on peut réfléchir plus précisément au fait de jeter de la farine. Est-ce qu'il n'y a pas cette jurisprudence qui pourrait s'appliquer ? Moi, je le pense. Ça veut dire que lorsqu'on a un acte symbolique, c'est-à-dire montrer qu'on est en désaccord avec une politique xénophobe, avec une politique qui prône la priorité nationale, avec un parti politique qui a été créé notamment par des Waffen-SS, par des collaborationnistes, avec un parti politique qui est en passe de prendre le pouvoir et d'instaurer une vision antidémocratique contre l'état de droit, une vision qui risque de détruire nos libertés. Est-ce que jeter de la farine, c'est quelque chose qui peut être poursuivi ? Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense qu'il y aurait une disproportion à poursuivre et à condamner une personne simplement parce qu'il y a un jet de farine. Voilà, en gros, l'état de la situation.
Alors, nous avons dans le chat des gens qui étaient à Vesoul, de la même manière que j'ai des amis à Moissac qui m'ont raconté, il y a un monde dingue pour Bardella, pour son livre, et donc l'irruption de la farine casse ce moment. Est-ce que tu en sais plus sur ce qui s'est passé exactement, puisqu'il y a eu Libération qui a raconté que le service, il y a à la fois des policiers qui protègent Bardella comme tous les chefs de parti, puis il y a aussi des gens du RN qui le protège. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé ? D'après Nicolas Massol de Libération, l'entourage de Bardella a été assez viril, je vais employer un terme qu'il aime bien, assez viril avec les journalistes pour empêcher le filmage de la scène. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé pour ton client ?
Oui, je ne vais pas non plus parler à sa place, et puis il ne souhaite pas véritablement s'exprimer. Ses parents non plus essaient de le protéger. Rappelons que c'est un mineur qui a 17 ans et qui a le droit d'avoir eu un geste politique, et il l'assume totalement, et en même temps de ne pas être sous le feu des projecteurs. À 17 ans, on a peut-être envie d'être autre chose. Voilà. Maintenant, ce que je peux dire, sont vraiment, puisque c'est visible, hein, c'est qu'il a été empoigné, c'est qu'il a été plaqué, hein, plaqué contre une camionnette, sauf erreur de ma part, de manière assez virulente. Voilà, là aussi, si vous me posiez la question, mais je ne doute pas que vous me l'auriez posée si je n'avais pas, si je l'avais pas posée moi-même, on pourrait évoquer des violences, hein, contre un mineur en plus, hein. Et donc, le simple fait de plaquer un mineur contre une camionnette, c'est déjà en soi des violences. Peut-être ces personnes pourraient-elles être poursuivies également. Après, la question, c'est est-ce que leur geste est proportionné par rapport à la menace qui vient d'apparaître, c'est-à-dire le jet de farine, Tout ça, ce sont des débats juridiques qui pourraient se mener devant un tribunal. Je ne suis pas sûr que là-dessus, il y aura une poursuite, une procédure. Ce que je peux vous annoncer, en revanche, c'est que le père de ce jeune homme n'a pas véritablement goûté les déclarations du sieur Jordan Bardella chez BFM.
Alors, il a évoqué à BFM Bardella, qui était interrogé quelques minutes après ce qu'il appelait alors un non-événement, ce qui n'est pas le même discours aujourd'hui, puisqu'on sent très bien, on va en parler tous les deux, Arié, de comment le RN est en train d'essayer de riposter à cette contestation vesoulienne ou moissagaise. Bardella a évoqué un non-événement causé par, ouvrez les guillemets, un gamin de 16 ans, probablement un manque d'éducation des parents qui a jeté la farine sur les agriculteurs et sur moi-même pendant que je discutais avec des agriculteurs. Et donc, tu nous dis que le père de l'enfant n'a pas goûté la phrase « probablement un manque d'éducation des parents ».
Bah oui, et je peux le comprendre. Hein. Quand on éduque un enfant, qu'on lui donne toutes ses valeurs, ses principes, qu'on lui enseigne ce que sont les valeurs de la République et qu'on a un jeune homme qui en s'en empare totalement, hein, et qui comprend à quel point il faut la protéger, la République, parce qu'elle est toujours en danger et encore plus en ce moment, en particulier avec ce type de personnages qui prônent des valeurs qui sont contre-républicaines. Évidemment, le voir au micro de BFM dire que ce serait une mauvaise éducation qu'il aurait transmis à son fils, ça peut constituer, au sens de la loi de 1881, et là on va faire du droit, il faut vraiment faire du droit, c'est important de faire du droit. La loi de 1881, c'est la loi sur la presse.
La presse.
C'est une loi qui réprime et en même temps protège la liberté d'expression et donc les propos qui peuvent être tenus en public. Le fait, sur une chaîne de télé comme BFM, de dire que des parents, qui sont maintenant identifiés et identifiables, puisque leur fils l'est également par la justice, par la communauté de Vesoul. D'ailleurs, il a été un petit peu accueilli comme une star au lycée, le jeune homme. de dire que ça résulterait d'une mauvaise éducation, et bien là, c'est faire porter aux parents une charge lourde, voire prononcer des propos qui sont de l'ordre de l'outrageant, du vexatoire, de considérer que parce qu'un jeune homme a un acte, et indépendamment de la façon dont on qualifie cet acte, hein, ce serait de la responsabilité de ses parents qu'il l'aurait mal éduqué. Je pense que effectivement, ça peut tomber sous le coup de l'injure. Et c'est la raison pour laquelle le papa a décidé d'engager des poursuites contre le sieur Jordan Bardella, poursuites qui vont être engagées sous peu. Alors on hésite encore hein, entre le tribunal correctionnel de Paris ou bien le tribunal correctionnel de Vesoul. Je pense que ce serait pas mal d'aller voir à Vesoul et d'aller demander aux juges de Vesoul ce qu'ils en pensent du sieur Jordan Bardella qui décide d'outrager les parents de Vesoul.
Quand Bardella ajoute dans la même réaction, interview, Jean Moulin a fait mieux par le passé, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça?
Alors, je n'irai pas parler là, de mauvaise éducation s'agissant de M. Bardella, mais dire ce genre de choses, c'est un contre-pied manifeste. Hein. Comme on dit, un CSC, un contre son camp, c'est ça? Puisqu'il a comparé, et d'ailleurs il est comparable à mon sens, c'est vrai, ce jeune homme à Jean Moulin, et de se comparer à contrario, et bien de lui-même, hein, finalement, d'occupant nazi, puisqu'il considère que celui qui l'attaque est Jean Moulin, il se considère lui-même comme apparenté à l'époque, en tout cas aux nazis. C'est assez étrange comme expression. Hein. C'est de se considérer comme du camp, de ceux qui ont occupé la France, de ceux qui veulent transformer la France, de ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité. Je trouve ça vraiment très particulier. Est-ce que c'est comme ça qu'il se voit? Est-ce que c'est comme ça qu'il s'imagine? C'est-à-dire ceux qui sont opposés aux résistants? En tout cas, c'est assez révélateur de ce qu'il peut penser de lui-même. Ce qui est important aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment le dire, c'est que indépendamment de la façon dont ces actes peuvent être qualifiés pénalement, et ça on verra, ils se multiplient. Et je pense qu'il faut comprendre la multiplication de ces actes. Se dire que malgré ce que l'on peut penser, malgré l'impuissance que l'on peut avoir, en voyant une forme d'hégémonie de l'extrême droite en France, en voyant Jordan Bardella faire signer ses livres avec des files et des cohortes de personnes qui viennent pour le voir, pour le toucher, d'une manière assez étrange aussi. Il faut se dire qu'à tous les endroits, et notamment dans la jeunesse, notamment dans cette jeunesse impétueuse, cette jeunesse qui s'imagine résistante contre ce qui peut advenir, eh bien, il y a quelque chose qui surgit. Mais pas que dans la jeunesse, quand on voit également qu'il y a ailleurs des personnes de 70 ans qui envisagent aussi de résister. On voit une France de toujours, une France qui résiste, une France qui se révolte, même dans les moments les plus compliqués.
À Moissac, samedi dernier, un homme de 74 ans a été arrêté par les gendarmes présents sur place. Il a été placé en garde à vue. Il y était encore hier soir. Elle avait été prolongée. J'aimerais aussi que tu nous donnes ton point de vue sur ces gardes à vue à rallonge. Il a été placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. L'homme de 74 ans, agriculteur lui-même, s'en était déjà pris de la même manière à Éric Zemmour en mars 2022 lors de la campagne présidentielle. Et il se trouve qu'il était que Moissac est aux mains du RN depuis les dernières élections municipales. Un garçon de 17 ans, un jeune homme de 74 ans, on a quelque chose de... On a le grand spectre, mais je vais faire mon travail. Sébastien Chenu, mon travail d'avocat du diable, Sébastien Chenu du RN nous dit « Nous sommes dans un moment où l'extrême-gauche ne cherche pas à battre dans les urnes, mais à empêcher de s'exprimer. Il y a depuis 24 heures toute une rhétorique d'extrême-droite et de droite bontain pour nous expliquer que ces actes sont antidémocratiques. Le G de Farine, le G2. Qu'est-ce que tu penses pouvoir répondre à ces positions ?»
Alors, je ne vais pas me positionner spécifiquement sur le cas de ce monsieur qui a jeté des œufs. Faut bien comprendre que des œufs, ça fait plus mal. Hein. Moi, je préfère la farine. Hein. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une question d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est une question de cuisine. Et c'est important, la cuisine. En France, on a une tradition culinaire. Et effectivement, il y a un moment où il faut se dire que c'est peut-être cette tradition qui est en train de revenir, la tradition de la cuisine. Une tradition qui émane de la ruralité aussi. Hein. Et c'est dans cette ruralité qu'on voit que l'on essaye de cuisiner autre chose. Et je pense que cette cuisine, elle est importante et qu'il faut il faut malaxer la pâte, pour tout dire, David Dufresne.
Antifarine, j'ai regardé le dictionnaire, origine de l'enfarinage. Fête des fous et carnaval médiévaux, l'enfarinage puise ses racines dans les fêtes païennes et carnavalesques du Moyen-Âge, comme la fête des fous ou les Saturnales romaines. Ces célébrations permettaient de renverser temporairement l'ordre social. Les paysans se déguisaient en seigneurs, les femmes en hommes, et les participants se lançaient des projectiles farine, œufs, cendres, pour symboliser le chaos avant le retour à la normale. Des traditions qui remontent au entre 12e et 15e siècle en Europe et singulièrement en France, et visiblement à Pithiviers, il y a une tradition très particulière. Voilà, il y a tout un truc à dire. Donc c'est quelque chose de... Tu parlais de cuisine, mais n'empêche que t'es malin, mais t'as pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent vous ne respectez pas le débat démocratique, la République, en censurant, en agressant, on parle d'agression, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Alors, encore une fois, le débat démocratique, il peut s'exprimer de maintes et maintes manières. Pas avec la violence. Personnellement, je suis contre toute forme de violence physique, puisque c'est ça la violence. C'est de commettre des actes physiques qui portent atteinte à un corps, à une personne. Ça, je suis profondément opposé. Le débat de, savoir si jeter de la farine, c'est une violence, à mon avis, doit avoir lieu. Parce que ce n'est pas si évident que ça. D'abord, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la liberté d'expression qui est protégée dans un débat démocratique, avec la façon dont les citoyens peuvent l'exprimer. Ils n'ont pas accès à BFM TV, les citoyens. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent de la montée de l'extrême droite et de l'éventuelle arrivée de Jordan Bardella au pouvoir. Et s'il arrive au pouvoir, ils ne pourront peut-être plus jamais le dire. Il faut le dire, ça aussi. Donc, il y a un moyen où il faut justement faire une proportionnalité entre ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on pourra éventuellement ne plus faire après. Ça, c'est très important. Donc, moi, je crois que ce n'est pas un débat d'extrême droite et d'extrême gauche, indépendamment de la métaphore culinaire que j'ai commencé à filer. Je crois que c'est vraiment un débat entre, une vision réactionnaire contre-révolutionnaire, celle qui est portée par l'extrême droite, une vision contre l'égalité et celle de la République. Celle qui a consisté à défendre les valeurs de la République, c'est-à-dire les valeurs de l'égalité et de la liberté. Et je crois qu'on est vraiment là. Et les gestes que l'on voit, eh ben, ils pourront éventuellement être poursuivis devant le tribunal correctionnel. Et on défendra les personnes qui pourraient éventuellement les commettre. Et on ne peut pas faire l'apologie de la violence, loin s'en faut, au contraire. Après, la question de la farine devra avoir lieu à un moment ou à un autre devant le tribunal. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui.
Que penses-tu de ces gardes à vue ? Donc, ton client, ce jeune homme de 17 ans de Vesoul, a passé, je crois, une journée en garde à vue, c'est bien ça ?
Oui, et là aussi, je pense qu'il y a une véritable disproportion, une inquiétude du pouvoir par rapport du pouvoir judiciaire, l'autorité judiciaire, donc du ministère public, une inquiétude par rapport à ce pouvoir en devenir qu'est l'extrême droite, une forme d'allégeance future, de se dire, voilà, on va quand même mettre un gamin en garde à vue simplement parce qu'il a balancé de la farine. Je ne pense pas que ce soit arrivé à… Je ne pense pas, par exemple, qu'à Mardi Gras, lorsqu'on balance des œufs dans la rue ou de la farine, on va mettre tous les gamins qui s'amusent à faire ça en garde à vue. Alors, pourquoi là ? Pourquoi maintenant ? Peut-être parce que y a quand même une préparation progressive, elle existe, et elle sera manifeste s'ils arrivent au pouvoir, de cette allégeance de l'administration judiciaire à l'extrême droite et de ce qui pourrait advenir. Ne l'oublions pas. L'extrême droite a déjà été au pouvoir en France. On sait ce qu'il est advenu lorsqu'elle a utilisé la justice et lorsque la justice a baisé la bague, s'est mise à genoux devant l'extrême droite. Lorsque la République, parce que c'est de ça dont on parle, les institutions républicaines se mettent à genoux au lieu de résister.